Ceci est un enregistrement sur bande numéro 8903C12 SO OS4 FRT1 et c'est une traduction de l'enregistrement sur bande magnétique numéro 5610C25 OS4. Les méthodes d'éducation. En prenant des notes exactes, des commandements d'audition et des règles importantes, l'étudiant aura tous les matériaux dont il aura besoin pour futures références. Cependant, il n'est pas permis de copier, polycopier, de vendre ou de distribuer ces notes sous quelque forme que ce soit. Cet enregistrement a été fait par l'unité de traduction et a été reproduit par New Era Publications, Copenhague, Danemark. Les méthodes d'éducation. Une conférence donnée le 25 octobre 1956. Les méthodes d'éducation. La première méthode d'éducation serait de parler. Ça ne marche pas. Une autre méthode consisterait à taper sur la personne. Ça marche très bien, à condition que vous vous fichez pas mal de ce que vous enseignez à la personne. Donc, la toute première méthode, que je recommanderais un tant soit peu, dans le domaine de l'instruction de groupe, ce serait celle employée dans les cours d'efficience personnelle, où nous prenons une définition quelconque et où nous la lisons. Ensuite, nous prenons la donnée que nous sommes en train de définir et rien d'autre, et nous demandons à l'auditoire de la définir. Et nous ne lui demandons pas de souscrire à notre définition. Nous lui demandons de définir à son tour ce que nous sommes en train de définir. Nous demandons à chaque personne de l'auditoire de donner sa définition à elle, une personne prise au hasard, puis nous demandons à l'auditoire s'il est d'accord avec cette définition. Bien entendu, on peut aussi utiliser cette méthode pour définir un mot à la fois, un groupe de mots, etc., etc. Cette méthode n'est vraiment utile que si vous vous en servez pour des données fondamentales de la vie. Vous pourriez demander à quelqu'un de l'auditoire de définir tarte aux pommes en long, en large et en travers. Vous ne feriez pas beaucoup grimper son QI. Par contre, vous améliorerez peut-être, chez certaines personnes de l'auditoire, leur appréciation gastrique des tartes aux pommes. Bref, cette méthode d'éducation n'est pas aussi permissive ou générale qu'elle en a l'air. L'instructeur choisit très soigneusement, dans le vaste ensemble de données disponibles dans cet univers, quelques fragments fondamentaux de savoir, des choses qui sont en rapport direct avec la vie de l'auditoire. Pour en revenir à cette histoire de définition de tarte aux pommes, vous obtiendriez de très bons résultats si vous vous en serviez avec un groupe de cuisiniers ou de pâtissiers. Tarte aux pommes. Qu'est-ce que cela veut dire? À votre avis, c'est quoi une tarte aux pommes? Et nous discuterions de cette définition pendant un moment, et le groupe deviendrait plus réel pour les gens qui composent ce groupe, et les tartes aux pommes deviendraient plus réelles, leur travail deviendrait de plus en plus réel. Mais il s'agirait là d'une application spéciale de cette méthode. Prenons quelque chose de plus général, quelque chose pour un groupe composite. Si nous prenons un groupe composite, nous ne pourrons aborder avec lui que des données très très spécifiques relatives à la vie elle-même, dans son acception la plus large. Il nous faudrait prendre des choses telles que le cycle d'action, l'affinité, la réalité, la communication, les diverses composantes de la compréhension. Il faudrait prendre certains phénomènes d'ordre général qui ont un très grand effet sur la vie. Nous pourrions, par exemple, interroger un groupe de gens sur les parties de l'homme, et nous lirions très rapidement la définition, de préférence très rapidement, et nous demanderions un corps. Qu'est-ce qu'un corps? Voyez ce que je veux dire? Voilà quelque chose qu'ils détiennent manifestement en commun. Et nous pourrions donc, de cette façon, parvenir à un accord sur ce point particulier. Bon, je vais vous décrire la méthode employée. C'est une méthode très très spécifique. Je l'avais mise au point à Londres, mais elle m'était plus ou moins sortie de l'esprit, et je ne m'en étais pas beaucoup servi avant le présent congrès, et avant que nous ouvrions l'académie ici. Nous ne l'avions pas utilisé sur beaucoup de groupes à Londres. Je l'avais juste testé suffisamment à Dublin et à Londres pour savoir qu'elle était extrêmement efficace. Elle avait été efficace parce que je n'avais pas beaucoup enseigné à ces groupes composites. Et puis, brusquement, nous sommes arrivés ici, et j'ai dû employer la meilleure méthode que je connaissais pour délivrer un cours d'efficience personnelle. Et voilà donc la méthode d'éducation qui est maintenant utilisée. Je savais qu'elle donnait d'excellents résultats. Eh bien, j'ai une surprise de taille. Une surprise de taille. Lorsque je suis rentré à Londres pour essayer d'introduire cette méthode dans le cours d'efficience personnelle, et en faire une action standard de secours, j'ai été accueilli par des grognements. L'instructeur ne voulait pas s'en servir. Il a fait un foin de tous les diables. Pourquoi ? Bon, cet instructeur est un brave garçon et il s'en sert à présent. Il applique très bien cette méthode. Maintenant, comprenez bien pourquoi cette méthode n'a pas émergé et n'est pas beaucoup utilisée. Et pourquoi on ne l'emploierait pas beaucoup si elle émergeait ? Eh bien, parce que c'est une chose de s'asseoir et de parler à un auditoire qui, de par son éducation sociale qui lui a appris la discipline, restera tranquillement assis et vous écoutera. Mais que c'est tout autre chose d'administrer cette méthode d'éducation à un auditoire et de garder cet auditoire sous votre contrôle. De toute évidence, voilà une aptitude que tout le monde ne possède pas, ou du moins, les gens croient qu'ils ne la possèdent pas. Maintenant, où et dans quelles circonstances pouvons-nous appliquer cette méthode avec succès en scientologie ? Le cours d'efficience personnelle mis à part, où d'autres pourrions-nous l'appliquer ? N'importe où, à condition que ce soit un scientologue qui l'applique. Autrement dit, ce n'est pas n'importe qui peut l'appliquer. Maintenant, un scientologue doit prendre conscience qu'il est légèrement impressionné pour pouvoir confronter la chose qui l'impressionne légèrement. Il est là, en train de présenter une donnée à un auditoire, une donnée clé, et de demander à ce groupe de gens, à une personne de ce groupe, de définir cette donnée. Et il obtient une définition complètement dingue, et demande à une autre personne de définir à son tour cette donnée. Et elle donne une bonne définition. Et l'instructeur, alors, va dire ceci ou cela. Et il demande tout le temps au groupe, « Alors, vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes vraiment d'accord avec ça ? Vous pensez que c'est la définition ?» Vous voyez, quelqu'un a défini « cycle d'action » comme étant un monocycle de cirque. Et l'instructeur parcourt le groupe du regard et lui demande, « À votre avis, est-ce que c'est ça, un cycle d'action ?» Et le groupe répond, « Non, non, non !» Et quelqu'un au fond se met à marmonner. L'instructeur se tourne vers lui et dit, « Bien, maintenant, dites-moi ce qu'est un cycle d'action. C'est quoi un cycle d'action pour vous ?» Et ainsi de suite. L'instructeur ne fait rien d'autre que poser des questions comme celle-là, vous voyez ? Il tourne autour de ce thème, de ce genre de questions. Eh bien, la raison pour laquelle ça paraît si formidablement difficile, ce n'est pas seulement que l'on doive contrôler un groupe de gens. C'est aussi que l'instructeur est confronté au mécanisme exact qui a fait qu'il est ce qu'il est. Et ce mécanisme, c'est une foule de gens souscrivant à une donnée. Donc, pour appliquer cette méthode d'éducation, la personne doit avoir conscience de ce mécanisme. Et il n'y a qu'un scientologue qui puisse en prendre conscience. Bref, ça ne m'étonne pas que personne n'ait inventé ou utilisé cette méthode. Pourtant, elle donne des résultats fabuleux. Si vous vouliez apprendre à sténographier à un groupe de sténodactylos, disons que vous soyez directeur du Gregg Business College et que vous soyez scientologue. De temps en temps, quelqu'un m'écrit et me dit « J'ai quitté la scientologie, professionnellement parlant, et je dirige maintenant une entreprise de pompes funèbres, ou quelque chose comme ça. Et j'utilise la scientologie dans mon travail, et mon entreprise marche très bien. Et je dois cette réussite à la scientologie. » Et je suis en train d'intéresser d'autres croque-morts à la scientologie. Mais il a commencé sa lettre en disant qu'il n'était plus scientologue professionnel. Je pense que les gens ont une définition plutôt étroite de ce qu'est un scientologue. Ils croient que c'est quelqu'un qui audite des individus. Quand ils disent qu'ils ne sont plus en scientologie, à mon avis, ils veulent dire qu'ils n'auditent plus. Eh bien, le plus drôle de tout ça, c'est que la personne ne pourrait pas employer cette méthode d'éducation avec un groupe si elle ne savait pas auditer. En fait, il s'agit d'une espèce de procédé d'auditing. Et vous devez traiter ce groupe, non pas comme une série de préclairs, mais comme un seul préclair, ou comme un ensemble de circuits. Des circuits qui émergent à la surface, l'un après l'autre, et que vous effacez. Pourquoi cette méthode est-elle aussi efficace? Et pourquoi le QI des gens augmente-t-il aussi rapidement? Bien entendu, leur QI augmentera aussi si vous vous tenez devant eux, et si vous leur parlez de ces mêmes données. Mais ce ne sera rien comparé au gain de QI qu'on obtient avec cette méthode, consistant à obtenir l'accord du groupe. À votre avis, qu'est-ce que cela veut dire ? Dites-le-moi. Tenez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Vous voyez ? Etc., etc. Et autre question du même genre. Cette méthode a un effet extrêmement amusant. Quelqu'un dit qu'un cycle d'action est un monocycle de cirque. Et vous avez le reste du groupe qui fait « Ha 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 !» Et le gars se dit « Tiens, tiens !» Je ne suis pas sur la même longueur d'onde que la multitude. Je ferai bien de revoir mes valeurs. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se met à réfléchir à la question, il en discute un peu, il se met à marmonner et bim! Brusquement, il se libère de quelques valeurs inexactes qui déviaient du consensus fondamental relatif à ce petit fragment de vie. Donc, l'individu qui se trompe lourdement va à coup sûr progresser quelque peu, même s'il se met en rogne. Rien qu'en remettant ses opinions en question, il progressera un peu. Car si les opinions qu'il possède concernant les principes de base de l'existence sont complètement à côté de la plaque, cela signifie qu'il ne vit pas selon ses principes de base. C'est aussi simple que cela. Maintenant, prenons ces sténographes du Greg Business College. Nous pourrions bien sûr, et nous le devrions, prendre des choses telles que le cycle d'action, l'ARC, etc., et faire que ces sténodactylos en discutent en long, en large et en travers, jusqu'à ce qu'elles parviennent à un accord sur ces choses. Et si nous voulions effectuer un travail en profondeur, nous reviendrions plusieurs fois sur ces choses, répétitivement, et je peux vous garantir que ces sténodactylos vont énormément monter de ton. Mais nous inclurions aussi des données ou des éléments inhérents à leur activité professionnelle. Donnez-moi la définition de machine à écrire. Tenez, vous, Madeleine. Définissez-moi une machine à écrire. Très bien, merci. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Et c'est parti, voyez? Brusquement, ces femmes seront en meilleure communication avec une machine à écrire, car elles ont découvert qu'une machine à écrire est une machine destinée à obéir à une sténodactylo et recevoir du papier à lettres sur lequel on écrira quelque chose. Peu importe, même si elle est mal formulée, si elle est truffée de locutions adverbiales ou de propositions participales, ou encore si elle est archi-lourde. Ça nous est complètement égal. L'instructeur ne pourrait pas utiliser cette méthode en s'appuyant simplement sur une définition apprise par cœur. Admettons qu'il mémorise la définition du cycle d'action. Le cycle d'action de l'univers Mest est créer, survivre, détruire. Parfait, j'ai compris. Je vais lui enseigner ça à cette classe. Bien. À votre avis, c'est quoi un cycle d'action? L'instructeur va maintenant attendre que quelqu'un lui dise « Le cycle d'action est créer, survivre, détruire. » Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne le sait, personne n'a lu le livre. Maintenant, disons que quelqu'un répond « Un cycle d'action, ça veut dire que quelque chose démarre, puis continue pendant un certain temps, avant de faire un plop. » Eh bien, voilà une définition parfaitement acceptable. « Est-ce que le reste du groupe est d'accord ?» Vous demandez. « Ouais. » Un groupe de chauffeurs routiers. « Ouais, c'est ça, il a raison. En plein dans le mille. On a pigé. C'est comme un pneu fabriqué à l'usine. Il roule pendant un certain temps, et puis boum !» Donc, l'instructeur doit être scientologue. Il doit savoir ce qu'est un cycle d'action. Il doit être en mesure de se le représenter mentalement, en quelque sorte. Voyez, un gars qui ne sait pas ce qu'est un cycle d'action ne pourrait pas utiliser cette méthode. Car il ne saurait pas quand s'arrêter. Il risquerait de remettre en question des définitions qui sont correctes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il risque de demander « Alors vous autres, vous pensez que c'est vraiment ça? Vous saisissez la différence ?» Donc, nous nous servirons de cette méthode pour clarifier la vie, en général, ou bien certaines aptitudes ou caractéristiques spécifiques avec un groupe de gens. Prenons le métier de comédien. Si vous preniez une troupe de comédiens et que vous désiriez en faire de meilleurs comédiens, vous pourriez tous les auditer. Mais si vous cherchiez à consolider cette troupe théâtrale, il vous faudrait utiliser cette méthode d'éducation. Et il vous faudrait réduire le métier d'acteur à ses dénominateurs communs. Il vous faudrait prendre des dénominateurs communs de ce domaine. Comment nous y prendrions-nous? Nous examinerions ce sujet et nous le ramènerions à quelques catégories principales, et dans chacune de ces catégories principales, que nous aborderions l'une après l'autre, nous aurions une quinzaine d'éléments. Nous prendrions les composantes du métier de comédien. Nous prendrions la scène. Nous pourrions même prendre le public. Qu'est-ce qu'un public? Donnez-moi la définition de public. Un public, c'est ouin-ouin. C'est ça, un public. Ils vont se libérer d'une énorme charge d'hostilité par rapport aux auditoires qui leur ont été hostiles. Et vous allez sans doute effacer les deux ou trois derniers bides qu'ils ont eus. Rien qu'avec cette méthode, voyez? Autrement dit, vous décomposez le sujet. Donc, d'un côté, vous devez très bien connaître la scientologie, et d'un autre côté, vous devez avoir quelques notions concernant le sujet que vous essayez de décomposer. Vous devez avoir observé en quoi il consiste. Prenons d'autres domaines. Prenons le domaine de la médecine. Que vous faudra-t-il savoir sur la médecine pour pouvoir appliquer cette méthode d'éducation à des toubibs? Pas grand-chose en fait. Qu'est-ce qu'un patient? Nous allons définir le mot patient. Vous, Dr. Jones, comment définiriez-vous un patient? Oh oh! Quelqu'un qui verse des honoraires. Très bien, très bien. Finalement, ils retrouveraient une partie de l'éthique qu'ils avaient en entrant à la faculté de médecine et qu'ils ont perdue en poursuivant leurs études. Ils finiraient par clarifier ceci et cela et par s'intéresser davantage à leur profession. Maintenant, prenons une organisation, une entreprise. Voilà un domaine très très important car il relève de la scientologie organisationnelle. La scientologie organisationnelle est en train d'effectuer une énorme percée et va bientôt occuper les devants de la scène. En effet, nous auditons de plus en plus de grosses compagnies. Et jusqu'ici, nous les avons auditées soit par le truchement d'un cours d'efficience personnelle, en leur enseignant quelques petits fondements de la vie, soit en auditant les individus. C'est l'Association internationale des scientologues qui s'occupe de la plupart de ces compagnies. Maintenant, il y a autre chose que vous devez savoir ici. Il y a une autre façon spéciale d'appliquer cette méthode. Cette méthode d'éducation peut être utilisée avec un individu. Dès que vous mettez les pieds dans le domaine de la mise en place d'une organisation, vous vous servez d'une méthode d'éducation différente de celles qui sont habituellement employées. Vous ne donnez pas à la personne 825 directives joliment dactylographiées qui sont toutes en contradiction les unes avec les autres. Vous lui donnez un scientologue qui va aborder avec elle le poste qu'elle occupe. Vous la mettez sur son poste et vous lui demandez de définir son travail jusqu'à ce qu'elle ait une donnée stable pour ce poste. Vous ne faites rien d'autre et vous persistez jusqu'à ce qu'elle y soit arrivée. Oh, elle va pleurer et s'arracher les cheveux. Elle va sans doute en voir de toutes les couleurs avant de passer au travers. C'est une activité pleine de rebondissements. Vous faites avec cet individu exactement la même chose que ce que vous faites avec un groupe lorsque vous cherchez à lui enseigner les principes de base de la vie. Et c'est l'auditing le plus abominable qui soit. Vous allez effacer une confusion gigantesque. C'est vraiment l'une des activités les plus vitales que puisse entreprendre un scientologue. C'est très très intéressant. Donc, soit vous appliquez cette méthode à un domaine particulier, soit vous l'appliquez au fondement de la vie. Et rappelez-vous que la règle est la suivante. Vous demandez à une personne de vous donner une définition. Vous déterminez si les autres personnes sont en accord avec cette définition et s'il faut y ajouter des ramifications et des éléments supplémentaires, puis vous amenez le groupe à formuler une donnée stable sur le sujet. Et il va alors aziser une confusion énorme et être en mesure de vraiment appliquer le sujet. Et cette méthode peut être appliquée à un individu. Jusqu'ici, c'était toujours le contraire qui se produisait. Les activités individuelles étaient étendues à des activités de groupe. Donc voilà une nouveauté. Cette méthode qui, au départ, était appliquée à des groupes avec d'excellents résultats, est maintenant appliquée à des individus pour les éduquer. Pour les éduquer, une façon inédite de les éduquer. Le gars est comptable. Vous dites « Très bien, vous êtes là et je suis là. » Un peu comme si vous lui disiez « Est-ce que je suis là ? Est-ce que nous sommes bien dans une pièce ? Est-ce que c'est bien une séance ? Je sais que vous faites ce travail depuis pas mal de temps. Est-ce que vous connaissez bien votre patron, Monsieur Mashpro ?» Et ainsi de suite. Et nous ferions de la communication réciproque là-dessus. Puis nous dirions « Très bien, nous sommes censés faire quelque chose ici. J'aimerais que vous m'expliquiez votre travail. » Eh bien, il le fera volontiers. Il pense que vous étiez là pour lui expliquer son travail. Et ça le prend par surprise, parce que vous faites exactement le contraire et vous demandez « Donnez-moi une bonne définition de comptabilité. » Et il vous débite un discours long et compliqué qui sort tout droit de l'école supérieure des finances et de l'arnaque. Et vous dites « Bien, très bien. Mais à votre avis, est-ce que... Réfléchissez-y pendant un instant. À votre avis, est-ce que ceci... Vous prenez une phrase dans ce qu'il vient de dire. Est-ce que ceci fait partie de la comptabilité? Ma foi, je ne sais pas. Comment pourriez-vous reformuler ça? Et ça lui fait tout drôle que vous lui posiez cette question, car il n'avait jamais pensé à définir son travail. Et il va se mettre à élaborer une définition, et après avoir fait ça, avec lui pendant peut-être une heure, ce comptable professionnel vous sortira une définition de ce qu'est la comptabilité. Jamais il n'avait possédé cette définition. Et brusquement, 18 casquettes qu'il se croyait obligé de porter disparaissent, et 3 casquettes dont il ignorait qu'il était censé les porter apparaissent, et il commence à s'y retrouver dans son travail. et comme il dispose maintenant d'une donnée stable, il est en mesure de s'occuper correctement de sa correspondance qui lui prenait tout son temps. Donc, vous avez cette méthode d'éducation où vous demandez une définition et où vous obtenez un accord sur cette définition. Il existe une autre méthode d'éducation, un niveau inférieur à celle que je viens de vous décrire. Elle est positivement fabuleuse. Elle est extraordinaire. En fait, j'ai honte de la mentionner. Elle est trop élémentaire. Elle se trouve dans le tiroir du bas, si je puis dire. Je vais prendre quelqu'un de très intelligent dans cet auditoire pour vous montrer comment elle marche. Comprenez bien qu'il s'agit juste d'une démonstration. Est-ce qu'il y a un volontaire? Merci, Harold. Bon, d'accord. Très bien. Eh bien, je vais dire quelque chose et je veux ensuite que tu le répètes. Est-ce que ça te convient?
Ouais.
Très bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon. Très bien. Maintenant, est-ce que t'as dit ça?
Oui, j'ai dit ça.
Très bien. Pourquoi t'as dit ça?
Parce que tu l'as dit.
Ah, j'ai dit ça et alors tu l'as dit. Maintenant, est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit?
1, 2, 3.
Très bien, très bien. Maintenant, tu vois comment ça fonctionne. Bon, je vais dire trois autres nombres et je veux que tu les répètes, d'accord?
Ok.
6, 18, 12.
6, 18, 12.
Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit?
6, 18, 12.
C'est ça que j'ai dit?
Oui.
Tu es sûr que c'est ça que j'ai dit?
Ouais.
Bien. Est-ce que tu te souviens de ce que j'ai dit? Est-ce que tu te souviens vraiment?
Non. Je me souviens vraiment de ce que moi j'ai dit.
Tu te souviens de ce que toi tu as dit, et non pas de ce que moi j'ai dit.
Ouais.
Bien. C'est fascinant. Maintenant, quels sont les nombres que j'ai dit?
Eh bien, il y avait trois nombres.
6, 18, 12. Tu t'en rappelles, n'est-ce pas?
Oui, je m'en rappelle.
Bien. Est-ce que tu te souviens m'avoir entendu dire ces chiffres? Non, je me souviens pas aussi bien que quand moi je les ai dit. C'est plus facile pour toi de te rappeler quand toi tu les as dit?
Bien, c'est très intéressant.
Très bien. Maintenant, 32, 16, 11. Tu veux que je fasse quelque chose avec ça?
Ouais, absolument, répète-les.
32, 16, 11.
Très bien, très bien.
Qu'est-ce que j'ai dit?
32, 16, 11.
Très bien. Est-ce que tu te souviens m'avoir entendu dire ça?
Oui, mais pas aussi bien que quand moi je l'ai dit.
Très bien, très intéressant, hein?
Ouais.
Très bien. Maintenant, nous allons continuer un peu avec ça. D'accord? Ça te va?
Ouais, absolument, vas-y.
Très bien. 112, 16.
112, 16.
Très bien. Est-ce que j'ai dit ça?
Ouais.
Est-ce que tu te souviens m'avoir entendu dire ça?
Ouais.
Tu t'en souviens vraiment?
Ouais.
C'est plus facile pour toi maintenant?
Ouais, plus facile.
Bien, bien, excellent.
Ouais, ça a pris du temps, hein?
Très bien. Je vais dire trois autres nombres et tu vas les répéter, d'accord?
D'accord.
Très bien. 3, 2, 1.
3, 2, 1.
Très bien, excellent. Maintenant, est-ce que tu te souviens des premiers chiffres que nous avons utilisés? Les premiers chiffres que j'ai dit?
Non.
Les premiers? Ah si!
Oui.
Qu'est-ce?
1, 2, 3.
1, 2, 3. Très bien, très bien. Eh bien, tu peux te souvenir de ce que j'ai dit, pas vrai?
Ouais.
Tu peux te souvenir de ce que j'ai dit, et tu peux te souvenir de ce que tu as dit, n'est-ce pas?
Ouais, ouais.
Très bien. Et ce n'est pas difficile, n'est-ce pas?
Non.
Ce n'est pas difficile du tout.
Non.
Ah, très bien. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu as ressenti une douleur physique pendant que je te disais ces nombres?
Non, non.
En d'autres termes, le fait de répéter ces nombres et de t'en rappeler n'a pas provoqué de douleur physique, n'est-ce pas?
Non, aucune douleur physique.
Aucune douleur physique du tout?
Non.
Bien, très bien. Je vais dire trois autres nombres et je vais te demander de les répéter après moi, d'accord?
D'accord.
Bien. 8, 7, 6.
8, 7, 6.
Très bien. Maintenant, comment tu te sens avec ça?
Bien. Tu te sens bien avec ça?
Ouais.
Autrement dit, il n'y a pas vraiment de grosses tensions ici.
Non.
Tu es sûr? Tu es sûr qu'il n'y a pas vraiment de grosses tensions ici?
Non, plus maintenant.
Moins qu'avant?
Oui.
Très bien. Maintenant, quelle est la dernière chose que j'ai dit?
8, 7, 6.
Autrement dit, tu n'as aucun mal à t'en souvenir, hein?
Non.
Très bien. Tu n'as aucun mal à t'en souvenir. C'est vrai, hein?
Oui, c'est vrai.
Très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Eh bien, je pense que c'est plutôt facile de me rappeler de ce que tu m'as dit.
Très bien. Tu le penses vraiment?
Oui.
Bien. Maintenant, bien sûr, toutes ces données que je viens de te demander de répéter sont des données dénuées de signification.
Oui.
Il n'y avait pas beaucoup de signification dans ces données, n'est-ce pas? C'est vrai, hein?
Oui, c'est vrai.
Très bien. Maintenant, mettons un peu plus de signification là-dedans, d'accord?
Ok.
Très bien. Toutes les chaises sont violettes.
Très bien.
Toutes les chaises sont violettes.
Ok.
Maintenant, est-ce que c'est vrai?
Ouais. Non.
Non, c'est pas vrai. Bon, qu'est-ce que j'ai dit?
Tu as dit que toutes les chaises sont violettes.
Et ensuite, qu'est-ce que tu as dit, toi?
J'ai dit toutes les chaises sont violettes.
Très bien. Nous avons dit tous les deux que les chaises sont violettes.
Ouais.
Est-ce qu'elles sont violettes?
Non.
Non. Très bien. Donc, tu pourrais ne pas croire quelque chose que j'ai dit, n'est-ce pas?
Ouais.
Tu pourrais balancer cette donnée à la poubelle, hein?
Ouais.
Très bien. Très bien. Bon, on va essayer encore, d'accord?
Ouais.
Très bien. Le plafond est à 2 cm au-dessus du sol. Le plafond est à 2 cm au-dessus du sol. Très bien. Comment ça va, là?
Ça va bien.
Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit le plafond est à 2 cm au-dessus du sol.
Très bien.
Est-ce que tu peux jeter cette donnée?
Oui, bien sûr.
Est-ce que tu es obligé de la croire?
Non.
Est-ce que c'est une donnée vitale?
Non.
Est-ce qu'elle est vraie?
Non.
Elle n'est pas vraie?
Non.
En d'autres termes, tu as un pouvoir de choix par rapport à quelque chose que j'ai dit, n'est-ce pas?
Oui.
Eh bien, c'est très bien, très bien. Bien, on va continuer un peu avec ça, d'accord?
Ok.
Très bien. Il faut toujours accuser réception au préclair.
Ok.
Il faut toujours accuser réception au préclair. Est-ce que c'est vrai?
Ouais, si tu veux l'aider.
Hein?
Ouais, si tu veux aider le préclair, cette donnée est vraie.
Ouais. Mais la donnée était que il faut toujours accuser réception au préclair. Est-ce que c'est vrai?
Non, elle n'est pas vraie.
Elle n'est pas vraie?
Non.
Qu'est-ce que tu penses de cette donnée?
Je pense que c'est une donnée plutôt bonne.
Ouais, une donnée plutôt bonne, mais pas toujours vraie.
Non, pas toujours vraie.
Eh bien, je vais te dire ce que nous allons faire. On va démontrer ça. Prenons ces deux objets ici. Nous appellerons cet objet-ci le préclair, et nous appellerons l'autre objet l'auditeur, d'accord?
Ok.
Maintenant, je veux que tu me donnes un exemple de cette donnée. Il faut toujours accuser réception au préclair. Maintenant, si cette donnée existait, que ferait l'auditeur après que le préclair ait dit quelque chose?
Vas-y, dis-moi.
Eh bien, il lui accuserait réception? Il dirait ok ou très bien ou quelque chose comme ça?
Très bien.
Maintenant, avec ces objets, montre-moi le préclair qui dit quelque chose. Montre-moi l'auditeur qui accuse réception.
Eh bien, le préclair dit splums et l'auditeur dit ok?
Très bien. Vas-y, fais que le préclair dise quelque chose.
Spluff.
Très bien. Maintenant, que dit l'auditeur?
Il dit très bien.
Ok. Est-ce que c'est un accusé de réception?
Ouais.
Et la donnée dit quoi? Il faut toujours accuser réception au préclair. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, ça veut dire que l'auditeur doit toujours accuser réception?
Ouais. De quelque chose qu'a dit le préclair? Eh bien, donne-moi un exemple plus concret de cela.
Eh bien, le préclair dit « j'ai faim ».
Et l'auditeur dit « ok ».
Très bien.
Mais la donnée dit « il faut toujours accuser réception au préclair ». Maintenant, est-ce que tu peux me démontrer cela concrètement avec ces deux objets? Avec ces deux objets, hein?
Je sais pas, non?
Je sais pas si j'y arriverai très bien avec ces deux objets.
Pourquoi pas?
Eh bien, cet objet n'est pas un préclair, et l'autre objet n'est pas un auditeur.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Je suis d'accord avec toi, ici c'est parfaitement vrai. Autrement dit, tu n'es pas obligé d'accepter la valeur que j'ai donnée à ces deux objets.
Non, non. T'étais pas obligé d'accepter.
Non. Est-ce que tu étais vraiment d'accord avec la valeur que j'ai donnée à ces deux objets?
Oui, pendant un petit moment.
Mais plus maintenant.
Non, plus maintenant.
Plus maintenant, hein.
Bon, très bien.
Eh bien, si nous donnions à nouveau une valeur à chacun de ces deux objets.
Ouais.
Allez, donnons une valeur à chacun de ces deux objets. Lequel est le préclair?
Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça.
Je ne sais pas si t'as envie de... Eh bien, il faudrait, tu vois, il faudrait que je leur assigne, que je leur donne d'autres valeurs. Il faudrait que je dise, par exemple, que le ver ici est capable de parler, ou de faire certaines choses.
Mais...
Oui?
Ouais, ouais, ouais.
Finalement, je pense que je pourrais y arriver.
Ok, très bien.
Allez, vas-y, vas-y.
Tu veux que j'y aille, hein?
Bon, ok. Bah, on n'a qu'à garder les valeurs finalement que tu avais données à ces deux données. On dit que le verre, c'est le préclair.
Très bien, très bien.
Et que la bouteille de coca, c'est l'auditeur.
Très bien.
Maintenant, démontre-moi cette donnée que nous sommes en train d'examiner.
Ok, ok, ok.
Eh bien, le verre qui est le préclair dit « J'en ai marre, je m'en vais.
Mm-hmm. »
Et alors, si l'auditeur qui est la bouteille de coca ici, si l'auditeur doit toujours accuser réception au préclair, eh bien, la bouteille de coca dit « Ok. »
C'est pas terrible, hein? Ça ne marche pas terrible.
Bon. Donc, tu as bien compris cette donnée, hein?
Ouais.
Très bien. Maintenant, modifions cette donnée de façon à ce qu'elle soit vraie. Comment modifierais-tu cette donnée de façon à ce qu'elle soit vraie?
Eh bien, je dirais quelque chose comme si l'auditeur veut obtenir de bons résultats, s'il veut manier, alors il faut qu'il accuse réception.
Je dirais par exemple qu'un auditeur pourrait essayer de découvrir par lui-même si ça vaut le coup d'accuser réception ou non. Ce qui fait que dans l'exemple que je viens de donner, peut-être qu'il n'accuserait pas réception. Peut-être qu'il n'accuserait pas réception juste pour voir ce qui se passe.
Mm-hmm.
Eh bien, formule-moi une donnée que l'on pourrait enseigner à quelqu'un.
Mm-hmm.
Une donnée concernant l'accusé de réception. Eh bien, je dirais quelque chose comme « Si vous vouliez être un auditeur, vous allez auditer un préclair, et donc essayez d'accuser réception pour voir si ça marche. Lorsque votre préclair origine quelque chose, vous accusez réception. Voyez si vous obtenez de bons résultats. » Tu vois, quelque chose comme ça, à peu près.
Mm-hmm.
Bien. Est-ce que tu pourrais me donner cette donnée sous une forme succincte?
Mm-hmm. Bon, voyons voir.
Je dirais simplement « accusez réception à votre préclair. »
Mm-hmm.
Tu ferais une définition aussi brève que celle-là?
Ouais.
Oh, on pourrait peut-être ajouter quelque chose qui concerne les résultats en audition, je ne sais pas. Très bien. Donc, toi, tu dirais « accusez réception à votre préclair. » Est-ce que tu crois que c'est tellement différent de « il faut toujours accuser réception au préclair »
Je sais pas. Je sais pas.
Je pense qu'il ne faudrait pas dire toujours « accusez réception ».
À toi donc,
tu n'es pas d'accord? Tu n'aimes pas qu'on dise toujours?
Non, j'aime pas. J'aime pas tellement.
Très bien. Alors comment tu changerais ça?
Je sais pas.
Bon. Changeons cette donnée de façon à ce qu'elle puisse être enseignée. Les préclairs font quoi en ce qui concerne les accusés de réception?
Je sais pas, dis ce que tu as envie de dire.
J'aurais tendance à dire...
Je sais pas. Je sais pas.
Allez, allez, fais-moi une donnée.
Non, je sais pas.
Je dirais simplement accuser réception à votre préclair.
Tu dirais simplement accuser réception à votre préclair.
Ouais.
Mm-hmm.
Bon. Pas de mise en garde qui accompagnerait cette donnée.
Peut-être que
je formulerais une autre donnée qui dirait une autre donnée. Je dirais, si vous voulez bien auditer, si vous voulez avoir un bon auditing, voici les rudiments de l'auditing, ou quelque chose comme cela. Et l'un de ces rudiments, c'est accuser réception à votre préclair. Et j'ajouterai, essayez ça par vous-même. Essayez de le faire, ou de ne pas le faire, et voyez ce qui se passe.
Très bien, très bien. Quelle conclusion, à ton avis, les gens tireraient de cela?
Eh bien, je pense que les gens en viendraient à la conclusion que s'ils voulaient obtenir de bons résultats, eh bien, ils accuseraient réception à leur préclair.
Très bien. Maintenant, dis-moi cette donnée. Dis-moi cette donnée.
Eh bien, si vous voulez de bons résultats en auditing, accusez réception à votre préclair.
Si vous voulez de bons résultats en auditing, accusez réception à votre préclair.
Très bien.
C'est ça que tu as dit?
Oui, c'est ça que j'ai dit.
Est-ce que je l'ai répété?
Oui, tu l'as répété.
Donc, je répète quelque chose que tu as dit.
Ouais.
Je l'ai vraiment fait?
Oui.
Eh bien, dis-le à nouveau.
Si vous voulez de bons résultats en auditing, accusez réception à votre préclair.
Très bien. Si vous voulez de bons résultats en auditing, accusez réception à votre préclair.
Très très bien.
Bien, ok. Merci beaucoup, Harold. Fin de séance. Bien, vous avez vu comment fonctionne cette méthode particulière d'enseignement. On prend d'abord une donnée sans aucune signification, et on enseigne à la personne que le fait de répéter cette donnée ne va pas la faire sombrer dans la confusion, ni la tuer, et qu'elle est capable de le faire. Ensuite, on lui enseigne qu'elle est capable de s'en souvenir.
Maintenant, bien qu'elle reçoive constamment des données dans sa vie de tous les jours, elle n'aura peut-être pas forcément envie d'accepter vos données, car elle vous associe peut-être à telle ou telle chose. Certaines personnes sont dangereuses, d'autres ne le sont pas, voyez ce que je veux dire?
Donc, pour lui enseigner quelque chose, il vous faudra d'abord lui donner un avant-goût de cette méthode d'éducation, lui permettre de l'examiner. Et bien entendu, vous faites cela avec une donnée dénuée de signification. 1, 2, 3, 100, 32, 16, voyez? Juste des nombres. Rien de bien compliqué.
Pas sorcier du tout.
Et vous lui demandez de les répéter, puis de se les rappeler. Et le gars finit par se rendre compte, ça arrive presque à tous les coups, qu'il se rappelle très bien avoir répété votre donnée, mais qu'il ne se rappelle pas aussi bien vous avoir entendu la prononcer. Puis il découvre immédiatement après que ce n'est pas la mer à boire, que ça n'a rien d'épouvantable. Ensuite, vous faites autre chose avec lui. Il est tellement habitué à ce que la vie lui enseigne des choses par la force, sans qu'il puisse faire appel à son libre arbitre, que vous prenez une donnée complètement incorrecte. Vous lui avez d'abord montré que son aptitude à se souvenir s'étend sur une longue période de temps, par exemple en utilisant le truc que j'ai utilisé, c'est-à-dire en lui donnant la première série de nombres à l'envers, puis en lui demandant de me dire quelle était la première série de nombres, puis vous lui dites une donnée incorrecte, une donnée manifestement, indiscutablement incorrecte. Et vous lui dites de la répéter. Ensuite, vous lui donnez une autre donnée incorrecte et vous lui demandez de la répéter. Soit dit en passant, s'il a des problèmes avec des données dénuées de signification, vous continuez de les lui faire répéter jusqu'à ce qu'il y arrive aisément et qu'il ait un gain, peu importe le temps que cela prend. Puis vous passez donc aux données incorrectes. Vous les lui faites répéter et vous lui démontrez sans la moindre équivoque qu'il peut les balancer par-dessus bord. D'accord? Bien. Vous lui avez démontré, et ça vous a sans doute pris beaucoup plus de temps et de travail que ma petite démonstration il y a quelques instants, vous lui avez démontré qu'il peut prendre une donnée totalement incorrecte et la jeter aux orties, et qu'il peut se souvenir de ces données, et aussi qu'il ne s'en trouve pas plus mal et que ce n'a pas tué. Saisissez? Ensuite, vous lui dites la donnée que vous désirez lui enseigner, et vous le laissez exercer son pouvoir de choix par rapport à cette donnée. Mais vous exagérez légèrement cette donnée. Vous dites, il faut toujours accuser réception au préclair. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Laissez-le se démener avec cette donnée. Laissez-le la retourner dans sa tête. Laissez-le l'analyser et la comparer à son expérience, à son vécu. Et dites-lui de vous en donner un exemple objectif. C'est une étape vitale de ce procédé, une étape vitale. Dites-lui d'inventer une situation imaginaire. Par exemple, si vous êtes en train de lui enseigner qu'il ne faut pas aller dans le fossé, lorsqu'on est en voiture, ou quelque chose d'aussi idiot que ça, dites-lui de vous montrer la route sur la table et de faire aller la salière dans le fossé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lui demandez de vous donner un exemple concret. Il doit traduire votre donnée en action, comprenez? Il doit le faire. Et il doit persévérer jusqu'à ce qu'il y arrive, de façon à ce que la donnée cesse d'être, pour lui, une série de mots. Pour bon nombre d'excellents étudiants, l'éducation n'est rien d'autre qu'un amas de mots.
Ils ont, d'une façon ou d'une autre, maîtrisé les mathématiques des mots, ce qui leur permet de modifier et de redéfinir les mots et de se les remémorer sans jamais les rattacher à la réalité. Autrement dit, ils évitent tellement l'action, le concret, qu'ils ont mis au point tout un système mathématique composé de symboles. Et ces étudiants peuvent être très convaincants. Ils sont capables de vous donner des exemples. Mais c'est tout à fait autre chose d'amener l'un de ces étudiants à désigner des objets, à donner des directives à des objets, à placer une intention dans des objets. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait sortir cet étudiant du domaine de la théorie pour le faire pénétrer dans le royaume du faire. Donc, vous prenez cette donnée et vous amenez la personne à vous donner une définition améliorée, puis à la mettre en pratique dans le royaume du faire. Puis vous discutez un peu plus avec elle à propos de la définition proprement dite, et vous trouvez un point d'accord avec telle et telle chose dans sa définition, et puis vous continuez de la sorte jusqu'à ce que la personne vous donne une définition plutôt bonne. Et vous répétez alors la définition. Ça montre à la personne qu'elle aussi, elle est capable d'énoncer une donnée que quelqu'un répétera. Il risque alors de se produire un phénomène fascinant. La personne va sans doute se détendre par rapport à cette donnée. Maintenant, un point particulier est apparu en ce qui concerne cette démonstration que je viens de donner. Bien entendu, je n'ai pas eu besoin d'insister beaucoup pour obtenir une bonne définition. Ce qui fait que cette démonstration a été brève. J'ai eu affaire à quelqu'un qui connaissait déjà la donnée. C'est pour ça que cette séance d'enseignement a pu être brève. Aucun sujet ne possède plus de 50 données importantes. Quel que soit le sujet. Aucun sujet n'a plus de 50 données vraiment vitales, vraiment primordiales. Vous avez ce directeur d'une société de transport routier. C'est un gars qui sait comment faire marcher sa boîte, mais il est incapable de vous dire comment il faut faire. Il fonctionne à l'intuition et tout ça. Eh bien, il vaut mieux ne pas compter sur lui en cas de pépin, car il est incapable de vous dire ce qu'il fait. Aussi, pour lui, tout n'est qu'action, action, action. C'est plus ou moins une obsession. Ces camions doivent toujours rouler. Il y en a 8 qui sont en mauvais état. Si on continue de les faire rouler, ils seront bons pour la casse. Mais il a cette donnée profondément enfouie quelque part qui lui dit que les camions doivent toujours rouler. Et donc, malgré les protestations des mécaniciens, il envoie ses 8 camions sur les routes et les 8 camions rendent tous leur dernier soupir et le gars perd une fortune. J'ai vu des compagnies maritimes faire ça. Les bateaux devaient toujours aller en mer afin de rapporter de l'argent à leurs propriétaires. Ou encore, la peinture ça coûte cher. Ou quelque chose comme cela. Une donnée d'une importance cruciale. Maintenant, du fait que nous nous livrons à une évaluation de données, je vous invite à examiner cela de près. C'est ça que nous faisons. Jusqu'ici, c'est entre les mains de l'instructeur que reposait l'évaluation des données. Comprenez? Nous devons utiliser une autre méthode d'éducation ici. Et là où elle marche le mieux, c'est lorsqu'on l'applique sur le terrain. On l'applique au sujet, à la matière de la personne, et l'on applique sur le terrain. Et cette méthode consiste à enseigner toutes les choses dénuées d'importance, rien que les choses dépourvues d'importance. Nous n'enseignons pas les choses importantes. Pourquoi? Parce que tout le monde, dans cet univers, insiste toujours sur l'importance des choses. Tout est toujours important. Tout est important. Il est très important que tu accroches ton chapeau à ce clou. Pourquoi? Parce que c'est important, pardé. Pourquoi est-ce important? Que signifie important? Important signifie punition. Comprenez? On apprend aux gens à faire telle ou telle chose, non pas parce que c'est censé ou parce que c'est un jeu intéressant, mais à cause des conséquences. Donc, vous pouvez prendre tout un domaine et en parler en termes de conséquences, en insistant uniquement sur le fait que telle et telle chose est importante, sinon gare aux conséquences. Que vous enseigniez les conséquences ou les importances, le résultat serait plus ou moins le même. Vous apprenez à quelqu'un à conduire un tracteur. C'est une branche qui marche très fort. Il y a des tas d'auto-écoles aux USA. On apprend aux gens à conduire. Et il y a des tas d'écoles de police qui apprennent aux gens à conduire mieux. Et elles font du très bon travail. Elles envoient les gens sur les routes pour qu'ils aient plus d'accidents. Très bien, c'est très bien. C'est très très bien. Ils ont des problèmes de personnel chez les agents de la circulation, vous voyez? Et s'il y avait moins d'accidents, il y aurait moins d'agents embauchés. C'est, du moins, la seule explication que j'ai pu trouver. Et ces écoles enseignent à tout le monde qu'il est très important de faire ci et qu'il est très important de faire ça, autrement il y aura des conséquences funestes. Et j'ai étudié ce problème avec énormément d'intérêt. Nous avons même conçu un très joli petit test. Un de ces jours, nous allons coller ce test sous le nez des gens qui passent leur permis de conduire. Et s'ils échouent, pas de permis. Bing, c'est fini. Et un petit test tout bête qui fait jaillir à la surface l'énorme confusion dans laquelle se trouve l'individu. Car 10% seulement des conducteurs provoquent 90% des accidents de la route. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de les éliminer, et nous verrions alors beaucoup moins de feux tricolores. Je n'ai jamais entendu un moniteur dire « il faut conduire comme ça parce que c'est esthétique » ou encore « parce que c'est gracieux ». Ça, on ne le dit pas aux apprentis conducteurs. Et pourtant, c'est ça qui séduit le tétan. C'est la seule et unique raison pour laquelle les gens achètent des voitures aujourd'hui. Parce qu'ils croient qu'ils ont l'air esthétiques dans une voiture, ou qu'ils conduisent de façon esthétique, ou quelque chose comme ça. Peut-être que quelqu'un s'est fait une idée de l'esthétique qui va complètement à l'opposé de ce qu'est l'esthétique est censée être. Peut-être que la laideur et l'esthétique ont été inversées. Peut-être que la beauté et la laideur ont été inversées dans le domaine de l'esthétique. Ce qui fait que le gars sait qu'il a l'air esthétique dans une voiture, vieux chapeau tout déformé, conduisant une deux chevaux. Le summum de l'esthétique. Donc, que feriez-vous? Que feriez-vous avec quelqu'un si l'importance de la situation laisse plutôt à désirer? Si la chose n'est pas aussi importante qu'elle en a l'air? Uniquement enseigner l'importance des choses ne mènera pas la personne très loin. J'ai été plutôt surpris de lire dans un rapport qu'on enseigne continuellement à tous les enfants d'une ville d'Angleterre, avec une insistance peu commune, qu'on n'arrête pas de leur enseigner comment conduire leur bicyclette et marcher prudemment. Et ce rapport continue pendant des pages et des pages, et décrit l'importance d'avoir un programme d'éducation pour empêcher les accidents, vu que ça fait des années et des années qu'il n'y a pas eu d'accident dans cette ville, bien que beaucoup de voitures la traversent. Et ce programme ne laisse rien au hasard, il a été très bien suivi. Ces données, bien sûr, tiennent parfaitement debout. Faites-leur tous étudier la prudence sur les routes, faites-leur avoir un dossier de conduite prudente, et puis soudain vous lisez qu'on leur fait faire des exercices sur le terrain. Ils apprennent à marcher et à conduire leur bicyclette dans les rues. On les emmène dehors. Pour que ce programme fonctionne, pour que la leçon soit bien apprise, on a inclus ça dans le programme. On a inclus des leçons qui leur montrent à ces enfants que, eux aussi, ils peuvent conduire une bicyclette en toute sécurité et qu'il n'y a pas de quoi se faire du mauvais sang. Et ce fait doit l'emporter sur le facteur importance. Autrement, le programme n'aurait pas le succès qu'il a. Je trouve ça très très intéressant. Maintenant, si vous n'avez pas le temps d'éduquer qui que ce soit, si vous êtes je m'en foutiste, si ça vous est complètement égal et si vous vous sentez d'humeur sadique, vous dites « Personne ne doit quitter son poste ce soir ». Vous êtes un général ou quelque chose comme ça, voyez ? Il n'y a personne pour vous contrôler. Et un soldat du nom de Slovic quitte son poste et vous l'abattez. Puis vous montrez son cadavre aux autres et vous dites, vous voyez? Si vous êtes vraiment stupide, c'est efficace. On peut employer cette méthode. Vous pourriez faire ça si vous étiez vraiment stupide, si vous étiez totalement dépourvu d'imagination. Pour une raison ou pour une autre, ce genre de méthode plaît à pas mal de gens. Maintenant, si vous tuez quelqu'un, je vais vous montrer, la force, c'est très très efficace. Vous dites, si vous tuez quelqu'un, vous serez condamné à mort. De la force, beaucoup de force. Et ça marche. Ça fait un bail qu'il n'y a plus de meurtre. De toute évidence, ça doit faire des années qu'il n'y a plus de meurtre, parce qu'il y a eu énormément de pendaisons. La preuve est faite, pas vrai? Donc, l'éducation par l'enseignement des importances fonctionne, à condition que vous soyez en très très bonne ARC avec les gens que vous cherchez à éduquer. Vous dites, voici une donnée terriblement importante. Examinez-la et voyez si vous êtes d'accord ou non. Si vous n'êtes pas en très très bonne ARC avec les gens, si vous n'avez pas de très très bon rapport avec eux, bonjour les dégâts. Ce n'est pas leur pouvoir de choix que vous devez leur faire recouvrer. C'est la décontraction. C'est ça que vous devez leur faire recouvrer, la décontraction. Vous devez les amener à considérer votre ensemble de données avec décontraction, si vous voulez que l'importance de telle ou telle donnée leur apparaisse. Donc, vous apprenez à quelqu'un à conduire un tracteur en lui demandant d'en sélectionner les parties dénuées d'importance. Les choses qui, selon lui, sont relativement dépourvues d'importance dans ce tracteur. Et vous savez, il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant que le gars, voyez, vous commencez à lui appliquer cette méthode, Il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant que ce tracteur devienne la chose la plus importante qu'il ait jamais vue. Il va dire « Mais tout est important dans ce tracteur !» Et vous dites « Oh allez, tu peux trouver autre chose dans ce tracteur qui n'a aucune importance. Allez, trouve autre chose. » Voyez, tout le long, vous exercez une espèce de 8C caché, qui est extrêmement efficace et qui, dans l'éducation, est un facteur que vous ne devez pas négliger. Montre-moi autre chose dans ce tracteur qui n'a aucune importance. Finalement, il décide que la couche de peinture sur la manivelle est sans doute dépourvue d'importance. Il va sans doute décider ça. Et vous continuez de le presser, de le presser, de le presser. L'une des choses qui va se produire, c'est que le tracteur va lui paraître plus solide. L'autre chose qui va arriver, c'est que la conviction selon laquelle tout est important va, après avoir culminé, commencer à se désintégrer. Il ignore tout de ce tracteur. Tout ce qu'il fait, c'est l'examiner. Et il va finalement sélectionner les commandes et les diverses touches et divers boutons et dire que, de son point de vue, c'est ça qu'il y a de plus important sur ce tracteur. Il va les sélectionner et peu à peu, il va connaître et comprendre ce tracteur. Et le plus drôle, c'est que si vous lui faites faire tout ça, il sera capable de monter dans ce tracteur et de le conduire. Fabuleux. Autrement dit, tout ça n'est pas important au point que ça le tuera s'il ne sait pas tout. Et si, pendant tout le temps où il apprend à conduire un tracteur, il est torturé par une soif insatiable de tout savoir, ça va pratiquement le tuer. Et un jour, le tracteur va sans doute le tuer. Tout est tellement important qu'il va finir lui-même par en être convaincu et tomber dans la falaise avec le tracteur. Au dernier moment, il cherche le frein à main et appuie sur le starter et emballe légèrement le moteur et il dit « Il y a quelque chose qui cloche ici. Tout est tellement important. » Donc, il y a toute une série de méthodes d'éducation qui visent à dévaluer l'importance qu'attachent les gens aux éléments insignifiants d'un sujet. Compris ? Et ces méthodes constituent tout un domaine au sein du domaine de l'éducation. Prenez quelqu'un, montrez-lui un barrage hydroélectrique et dites-lui d'en trouver les parties dépourvues d'importance. Mon Dieu, ça peut lui prendre 10 mois, et ça nous est même égal à qui il parle. Mais nous ne le laissons pas étudier ce barrage à partir d'un manuel. Non, non. Il doit sélectionner les choses dénuées d'importance. Ça me rappelle une anecdote plutôt amusante. Souvent, je montre à quelqu'un comment se servir d'un appareil photo. Bien entendu, c'est ma façon à moi de dramatiser le fac 1. Et j'ai pas mal de réussite. Je fais semblant de retirer la pellicule avant de montrer aux gens comment prendre les photos, etc., etc. Et c'est très très intéressant de voir à quel point c'est facile d'apprendre à des scientologues le maniement d'un appareil photo. Très facile. Facin ou non, c'est plutôt facile de leur enseigner le fonctionnement de quelque chose. Vous leur montrez ceci, vous leur montrez cela, et ils disent « Très bien, j'ai compris ». Ils avancent la pellicule d'un cran et cliquent, ils se débrouillent très bien. À l'exception des personnes qui n'ont jamais sélectionné les choses importantes de la scientologie et qui croient que chaque donnée de la scientologie doit être totalement mémorisée, vu que toutes les données scientologiques sont d'importance égale. Et la scientologie est du même ordre d'importance que le yoga, elle est du même ordre d'importance que ceci et cela, elle est du même ordre d'importance que la psychologie. Tout est important, tout est d'importance égale, voyez ? Et vous regardez le passé de cette personne et vous découvrez qu'elle a été punie à mort. C'est directement lié. Tout est tellement important. Donc, si vous disiez à quelqu'un « Pour avoir de bons résultats en auditing, il faut accuser réception au préclair » ou quelque chose comme ça, ou si vous lui disiez « Les préclairs sont assis ou debout » ou encore « Le prix des livres varie », vous lui communiquez cette donnée, voyez, puis vous lui dites « Étudie-moi ça en vue de l'examen » et la personne va apprendre cette donnée par cœur. « Le prix des livres varie », elle va dire. Et vous verrez que cette personne est incapable de mettre cette donnée en application, de s'en servir. Donc, vous devez dévaluer cette omni-importance, vous devez lui faire sélectionner les choses dénuées d'importance. Bien. Il y a pas mal de temps déjà, j'ai démontré ce principe à un scientologue. Je lui apprenais à se servir d'un appareil photo, car je voulais qu'il prenne 2 ou 3 photos pendant un congrès. Place-toi là-bas et prends quelques photos, voyez ? Et brusquement, je me suis rendu compte que j'étais tombé sur l'un de ces « tout est très important ». La personne considérait que tout était devenu soudain très important du fait que c'était moi qui lui apprenais à se servir de l'appareil photo. L'ordre d'importance de la chose avait en quelque sorte déraillé, si je puis dire. Et l'anatomie d'un préclair est devenue aussi importante que la façon de prendre une photo, voyez ? Aussi, j'ai demandé à cette personne, elle me disait sans cesse « Oui, oui, montre-moi encore une fois, montre-moi le mécanisme d'ouverture ». Et j'ai dit « Quel mécanisme d'ouverture ? Oui, le mécanisme d'ouverture pour sortir la pellicule. Ça n'avait carrément aucune importance que la personne sache sortir la pellicule, vu qu'elle allait juste se servir de l'appareil pour prendre deux photos. Mais toute son attention était fixée là-dessus.
Alors je lui ai dit, « Dis-moi entre nous, est-ce que tu penses que ce que je te dis a énormément d'importance ?»«
Ça n'a pas du tout d'importance, hein, n'est-ce pas ?»
Et elle est brusquement sortie et a piqué une crise de fou rire. Tout son auditing a changé, ses aptitudes ont changé. Il lui a simplement suffi de prendre conscience que son évaluation des importances clochait et que tout n'était pas d'importance égale. Autrement dit, nous avons juste délogé une petite brique dans ce mur formidable et tout le mur s'est effondré. Eh bien, le fait d'ébranler cette conviction bien ancrée comme quoi tout est important et d'importance égale est sans doute l'une des meilleures actions pédagogiques que l'on puisse entreprendre avec quelqu'un qui a déjà reçu une éducation dans un sujet. Bref, nous pouvons même défaire une éducation. Je vous ai dit que l'éducation consistait à fixer et à défixer des données, à changer les données existantes, soit en les rendant plus solidement fixées, soit en les rendant moins fixées. Donc, nous avons aujourd'hui devant nous une technologie qui, avec ses fondements essentiels et toutes les variantes qui découlent de cette technologie, nous avons une technologie qui permet de défaire, dans une très large mesure, une éducation très poussée dans un sujet, et de rendre à l'individu son pouvoir de choix par rapport à ce sujet. Maintenant, étant donné que certaines personnes sont complètement hors communication, nous devons souvent inclure l'auditing dans notre technologie d'enseignement. Il faudra donc les déséduquer et les auditer. C'est là-dedans que réside la tâche la plus formidable de l'enseignant, de l'instructeur, prendre quelqu'un qui a été éduqué dans un sujet. Vous équipez l'Andrea Doria, vous savez, ce bateau italien, vous équipez l'Andrea Doria de tout un nouveau système de radar. Tout le monde sur ce bateau a passé sa vie en mer. Tout le monde a énormément d'expérience. Tout le monde sait tout sur ce radar et personne n'y jette jamais un regard. Et un jour, alors que le brouillard s'est élevé, quelqu'un pense qu'ils dépendent tous de ce radar et qu'ils n'en dépendent pas, et il mélange tout, et il n'a pas désappris les anciennes techniques, et il est censé accepter les nouvelles techniques, et toutes les techniques sont d'importance égale. Résultat, l'Andrea Doria gît au fond de l'océan. Voyez ce qui s'est passé? On n'a pas déséduqué cet équipage avant de l'éduquer. Maintenant, tout le monde sait qu'un tétan est un puits sans fond. Mais pas dans le domaine de l'éducation. Il absorbe simplement tant et tant de données sur un sujet, puis il laisse tomber. Donc, vous devez lui faire évaluer ce sujet, vous devez l'amener à le réévaluer. Vous devez l'amener à appliquer les différents niveaux d'évaluation de façon autodéterminée. Et ce sujet sera alors en bien meilleur état pour lui, bien plus utile qu'il ne l'a jamais été. J'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur la façon d'apprendre aux gens à en savoir moins sur un sujet dont ils savent tout. Je vous remercie de votre attention.